Europe 1, il est midi.
Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir.
Peut-être déjà les vacances pour certains d'entre vous. La SNCF propose des tarifs inédits pour remplir ses trains.
Et ça déstocke, ça brade. On voit ça dès le début du journal. Et nous inviterons Jérôme Lafond, directeur marketing à SNCF Voyage. Je n'ai reçu aucune instruction du pouvoir exécutif dans l'affaire Fillon, propos de la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, après les accusations portées par la magistrate Éliane Houlette. C'est l'affaire dans l'affaire. Point complet tout à l'heure à 12h30 avec Chloé Triomphe.
Dans l'actualité aussi, le détail des sites impactés chez Airbus. Nous ferons le point dans le journal de 13h.
Alors que chez Air France, on devrait supprimer plus de 1000 postes dans la filiale régionale Hop à Morlaix, dans un centre de maintenance et de pilotage. On redoute le pire.
On est en colère. C'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise. Saboté, en fait. C'est vraiment une catastrophe.
Dans ce journal également, haro sur Didier Raoult. Le conseil scientifique et la haute autorité de santé jugent ses propos infamants. Hong Kong change de visage politique avant l'heure. Des arrestations quotidiennes de manifestants. La sinologue Valérie Niquet avec nous tout à l'heure. L'État récupère de l'argent via la fraude fiscale. 12 milliards d'euros récoltés. Nous inviterons la députée Émilie Cariou, rapporteure de la loi fraude. Tesla renaît de ses cendres. À l'origine, personne ne misait un copec dessus. Aujourd'hui, le constructeur américain est le plus cher à la bourse de Wall Street. Axel de Tarlé nous dit tout à la fin de ce journal. Et puis, cette question, comment est-ce qu'on fabrique les tubes de l'été? Ça a beaucoup changé depuis Born to be Alive en 1979, mais Patrick Hernandez sera l'invité exceptionnel de ce journal tout à l'heure à 12h50. La météo, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Pierre, bonjour Elisabeth.
Bonjour Anissa, à tous. Et humide aujourd'hui.
Absolument, après les violents orages d'hier, c'est un ciel de traîne qui se met en place sur l'ensemble du pays avec donc une journée très nuageuse. Le soleil s'impose uniquement sur le quart sud-est cet après-midi avec des températures chaudes dans le sud, bien fraîches. Ailleurs, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa Haddadi, météo complète juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous sommes à quelques jours des grandes vacances d'été. Peut-être que vous êtes concerné ou déjà parti. La question, c'est comment partez-vous?
On l'a vu cette semaine dans ce journal, l'avion, ça recommence petit à petit. Fatalement, il risque d'y avoir beaucoup de voitures sur les routes. Quant au train, il n'a pas trop la cote, à croire que les voyageurs ne sont pas encore tout à fait prêts à reprendre les transports comme avant. Jean-Sébastien Soldaini, si on doit faire l'état des lieux, c'est quoi? C'est en demi-teinte?
En tout cas, ce n'est pas une ruée vers le train et c'est vraiment goutte à goutte que les rames se remplissent, car habituellement, ce sont 25 millions de voyageurs qui prennent le train chaque été. Là, la SNCF prévoit d'en transporter seulement 20 millions, 20% de moins que d'habitude. En fait, c'est un retard qu'accuse la SNCF, car le rythme des réservations ces derniers jours est le même que l'année dernière, aux mêmes dates. En revanche, toutes les réservations qui n'ont pas été faites pendant le confinement, pendant le mois de mai, sont perdues. La compagnie ne parvient pas à rattraper ce retard. Et ce sera flagrant en août, où pour l'instant, le taux de remplissage des trains n'est que de 35%. Ce n'est pas beaucoup mieux en juillet. 50% de places achetées, c'est difficile à expliquer pour la SNCF qui multiplie les offres. Il y a par exemple deux fois plus de billets à bas prix que d'habitude. Les annulations se font sans frais. Et la compagnie l'assure, les conditions sanitaires sont remplies. Du coup, la SNCF mise sur les week-end de grand départ et sur le 14 juillet pour limiter la casse.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour Jérôme Lafond.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur marketing de SNCF Voyage. Comment est-ce que vous faites pour rassurer les gens, pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous êtes totalement en sécurité dans un train après la crise que l'on vient de connaître?
Alors, pour rassurer les gens, en fait, c'est très simple. Déjà, le port du masque est obligatoire et puis surtout, tous nos trains sont nettoyés et vous avez la possibilité tout au long du voyage de vous laver les mains ou sinon de bénéficier de gel hydroalcoolique pendant le parcours. Donc, ce sont des éléments qui sont beaucoup appréciés par les clients. On les a interrogés encore récemment ces derniers jours et ils sont complètement rassurés et c'est eux qui le disent.
Mais ça veut dire quoi? J'ai pas de masque, je rentre pas dans le train?
Oui, en fait, si vous avez pas de masque, vous vous rentrez pas dans la gare. Donc, c'est une obligation.
Ouais,
c'est une obligation à la fois dans la gare et dans nos trains. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir une occupation du train qui est plus importante et de faire voyager encore plus de Français sur cette période.
Alors comment se fait-il et comment expliquez-vous que vous n'arriviez pas à remplir vos trains comme c'est le cas chaque année au moment des vacances d'été?
On a eu un redémarrage en fait progressif, c'est-à-dire l'envie de voyager, elle est revenue au fur et à mesure courant juin. Et puis, elle a été alimentée aussi par notre volonté, finalement, de proposer des prix qui soient les plus accessibles possibles pour que un maximum de gens puissent voyager tout l'été avec des prix très intéressants.
C'est-à-dire que vous bradez, en fait?
Alors, en fait, en ce moment, on a typiquement une opération flash qui a démarré hier et qui finira demain, où, pour le coup, c'est la grande braderie des prix TGV Inouï et Ouigo, puisque là, on est sur des prix à partir de 25 euros pour Ouigo et à partir de 30 euros pour TGV. Et vous pouvez trouver des prix, alors typiquement, des Paris-Strasbourg à 30 euros, des Paris-Marseille à 40 euros en
avec,
TGV.
Avec des départs à 5h45 ou
non,
des arrivées
non,
à
non,
minuit
bah,
ou...
J'ai encore regardé tout à l'heure. Pas du tout, pas
alors
du tout. Alors,
donnez-nous des exemples.
Ben, je vous donne un exemple très concret. Si vous voulez partir le 7 juillet, vous voyez, c'est pas dans très longtemps.
Mardi prochain.
Vous voulez faire un Paris-Marseille. Vous partez en TGV Inouï à 11h36, donc ça coûte 40 euros.
Mais voilà, je pars d'où, de Paris
dans tous nos
je pars de Paris-Centre ouais, ou de Massy-Palaiso?
Non, de Paris. De Paris. Ouais. Voilà, un autre exemple, vous voulez faire un Paris-Bordeaux le même jour, donc c'est pareil, c'est le mardi 7 juillet. Vous voulez aller à Bordeaux, vous partez à 19h39, en Ouigo, vous en avez pour 25 euros. Un dernier exemple, si vous allez à Strasbourg ce même jour aussi, vous partez à 7h58 le matin, et ça sera en TGV Inouï, 30 euros. Donc,
c'est des exemples très concrets. Le personnel des trains, il est rassuré? Il se sent en confiance?
Oui. Oui, ils sont complètement rassurés. La reprise des trains, elle a été progressive, en fait, hein, un petit peu en mai et puis surtout en juin. Et donc, il y a eu une courbe d'apprentissage qui fait que les personnels sont vraiment rassurés et ils peuvent assurer leur service dans les très bonnes conditions. Et les clients disent d'ailleurs qu'ils sont très, très, très satisfaits de la relation qu'ils ont avec les personnels. Ils le disent à 95%.
Merci Jérôme Lafont. Merci. Vous êtes directeur marketing de SNCF Voyage. Merci d'avoir été l'invité d'Europe Midi.
Et si vous voulez partir plus loin que la France, l'Union européenne vous donne la possibilité de franchir les frontières de 14 pays.
Et dans cette liste, il y a par exemple le Canada, le Japon, la Thaïlande, mais aussi le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Trois pays où beaucoup de Français se rendent chaque année pour retrouver leur famille. C'est environ 5 millions de Français originaires du Maghreb. Mais attention, c'est à chaque pays de décider s'il autorise ou non les Français à venir. Et la situation est loin d'être claire. Enquête de Romain Oquet.
Un été sans Maroc, je n'imagine pas. Quoi. Je veux dire que je ne vais pas pouvoir aller voir ma famille et mon deuxième pays, c'est un peu désespérant.
Pour la première fois depuis 30 ans, Rachid ne verra peut-être pas le Maroc, le pays où il retrouve ses parents chaque été. Toujours aucune annonce du Royaume sur la réouverture de ses frontières, probablement pas avant mi-juillet.
Je me renseigne tous les jours. C'est un peu difficile d'y voir clair dans la mesure où, en fait, la seule chose que j'ai vue, c'est que les billets d'avion étaient disponibles en août. Mais après, est-ce qu'on pourra prendre l'avion? Il n'y a rien de sûr, donc on attend.
Pour l'Algérie, en revanche, les autorités ont été claires. Les frontières resteront fermées jusqu'à la fin de la pandémie. Là-bas, les foyers de contamination se multiplient. Alors Malika a dû dire adieu à ses 3 semaines de vacances en famille et aux 1500 euros déjà dépensés pour le ferry.
Ce sont les économies de toute une année. C'est le voyage qu'on prépare toute la famille ensemble. C'est un budget. Hein, donc maintenant, on ne sait pas encore si on va avoir des vacances ou pas finalement cette année.
Pour l'instant, les vacances ne sont possibles qu'en Tunisie, mais pour y entrer, les contraintes sont lourdes. Les voyageurs doivent présenter un test négatif effectué avant le départ et s'autoconfiner au moins 6 jours dès leur arrivée.
Enquête de Romain Oquet, midi 8. Europe
1. Une première pause et dans un instant, Didier Raoult, accusé de faux témoignages, et le Covid-19 a signé la fin de l'argent liquide. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
C'est la guerre. Les déclarations du professeur Didier Raoult devant les députés de la commission Covid ne passent pas auprès des autres scientifiques.
Oui, souvenez-vous, l'infectiologue avait notamment suggéré qu'il y avait eu des conflits d'intérêts à la Haute Autorité de Santé. Ève Roger, la réponse ne s'est pas fait attendre et à la fois la HAS et le conseil scientifique sont très remontés.
Et oui, ils jugent que les propos et les insinuations de l'infectiologue marseillais lors de son audition la semaine dernière sont infamants et dépourvus de tout fondement, écrit Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, dans une lettre envoyée le 30 juin aux députés de la commission. En particulier, effectivement, ces accusations répétées de conflits d'intérêts avec un laboratoire pharmaceutique américain, comme dans cet extrait où Didier Raoult pointe un membre du conseil scientifique sans jamais le nommer.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il faisait, d'ailleurs, je répondrais en les vouvoyant. Je le ferais pas.
Alors c'est de la calomnie, renchérit la présidente de la Haute Autorité de Santé, dont certains membres ont aussi été montrés du doigt par Didier Raoult. Mais la première salve était venue de l'APHP, ou plutôt de Paris. Dans une lettre datée du 26 juin, son directeur général Martin Hirsch y accuse carrément Didier Raoult de faux témoignages. D'abord sur la mortalité en réanimation à Paris et à Marseille. Il conteste les chiffres avantageux pour Marseille avancés par Raoult. Et puis sur la prise en charge à Paris d'un patient chinois de 80 ans qui aurait été renvoyé chez lui, malade, par un hôpital parisien. Ce que dément absolument le patron de la PHP.
Merci de toutes ces explications, Eve Roger.
Avec le coronavirus, nous avons pris de nouvelles habitudes.
Ben oui, pendant le confinement, on ne sortait plus d'argent liquide. Terminé les pièces sales qui passent de main en main, place à la carte bancaire et au sans-contact. Le paiement en espèces est en chute libre, Carole Ferry.
Ben écoutez, c'est simple. Hein, pendant le confinement, nous avons retiré deux fois moins d'argent aux distributeurs qu'en temps normal. Et cette tendance se poursuit aujourd'hui encore. Selon la Banque de France, les retraits en espèces sont toujours en baisse de 20% par rapport à avant la crise. Alors ça ne veut pas dire qu'on dépense moins. Le montant des transactions par carte bancaire est même en légère hausse, selon le directeur général adjoint de BNP Paribas, Thierry Laborde.
On a maintenant sur les paiements carte bancaire en France, depuis plusieurs semaines, on est à plus 3, plus 4% de croissance en valeur des paiements par rapport à la même période de l'année dernière. Alors bien sûr, on retire moins de cash, on utilise beaucoup plus la carte. Et quand on utilise la carte, bien sûr, on l'utilise de plus en plus sans contact.
Alors on peut même parler d'une explosion des paiements sans contact, plus 45% au mois de juin par rapport à la même période de l'an dernier, selon le groupement des cartes bancaires. Il faut dire qu'entre-temps, le plafond est passé de 30 à 50 euros. C'est surtout devenu le geste barrière idéal des modes de paiement. Attention, ça ne veut pas dire que l'argent liquide va disparaître, on y reste très attaché en France, mais le Covid a clairement fait reculer encore un peu plus son utilisation, même si, après analyse en laboratoire, la Banque de France assure que le virus survit beaucoup moins longtemps sur une surface poreuse comme un billet de banque que sur du plastique.
Merci Carole Ferry. Réunion syndicale chez Airbus suivie d'un comité extraordinaire. On devrait sous peu connaître le détail de l'impact des suppressions d'emplois chez l'avionneur européen. De son côté, Air France KLM fera ses annonces demain, mais le chiffre de 7500 suppressions de poste d'ici deux ans est déjà connu.
Sont sur la sellette les lignes régionales de la filiale HOP, avec des conséquences au sol comme à Morlaix où un centre de maintenance et d'entraînement au pilotage pourrait disparaître. François Coulon.
800 personnes travaillaient sur le site de Morlaix il y a 7 ans. Le centre de maintenance devrait être purement et simplement rayé de la carte d'ici à 2023. 276 suppressions de postes, un cataclysme dans une ville de 15 000 habitants dont le taux de chômage dépasse les 20%. Benoît, 33 ans d'ancienneté.
On est en colère, c'était notre bébé. On avait participé à créer cette entreprise, saboter quoi en fait. C'est vraiment une catastrophe. Ici, il y a des gens qui travaillent en famille, il y a le mari et la femme, trop jeunes pour avoir des retraites, trop vieux pour trouver autre chose. Et puis dans le milieu ici, aéronautique, il n'y a rien. Obligé de partir, les gens sont effondrés. Moralement, c'est pas facile à vivre. On fait notre travail de deuil entre nous. On va perdre quelque chose de gros, une famille, c'est un déchirement.
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère?
C'est pas cohérent. Si on prête de l'argent, c'est pour sauver, pas pour tuer.
On ne se laissera pas faire, clame le nouveau maire socialiste de Morlaix qui demande au Premier ministre un rendez-vous express et appelle à une mobilisation de tous les élus bretons pour sauver la plateforme. Morlaix, François Coulon, Europe 1.
Midi 15.
Encore une pause et dans un instant, direction Hong Kong. Les arrestations en vertu de la loi sur la sécurité ont commencé. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Depuis quelques jours, la vie n'est plus pareille à Hong Kong.
Oui, ce sont des arrestations massives de manifestants qui ont lieu. C'est directement Pékin qui déploie les forces de l'ordre après avoir appliqué cette loi sur la sécurité nationale. Interdiction désormais de piétiner le drapeau chinois, de brandir des slogans favorables à l'indépendance. Sébastien Lebelzik est notre correspondant à Pékin. Malgré cela, plusieurs manifestants ont bravé l'interdit. Hier, ils étaient des milliers. Reportage.
Des manifestants tout de noir vêtus face à une armée de policiers, des scènes de guérilla urbaine et des centaines d'arrestations. Hong Kong a retrouvé des airs de champ de bataille, comme l'année dernière, mais cette fois les règles ont changé. Des dizaines de personnes arrêtées pourraient être extradées et jugées en Chine continentale où elles risquent la prison à vie. Le vote à Pékin de la loi sur la sécurité nationale cette semaine a radicalisé les positions. Pékin veut mettre un coup d'arrêt brutal au mouvement pro-démocratie et Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, tente tant bien que mal de rassurer.
Nous avons entendu les critiques selon lesquelles la législation sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong sape le principe « un pays, deux systèmes ». Mais c'est tout le contraire. Le gouvernement central espère améliorer ce système afin que la stabilité et la prospérité perdurent à Hong Kong.
Un discours qui ne rassure ni les Hongkongais qui poursuivent aujourd'hui encore les manifestations, ni la communauté internationale. Londres propose de délivrer 3 millions de passeports britanniques aux Hongkongais. Colère de Pékin aujourd'hui, qui menace de représailles le Royaume-Uni. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Chine, auteur de nombreux ouvrages, responsable de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Concrètement, s'ils continuent de manifester, ils risquent quoi les Hongkongais ?
Il risque des arrestations massives. Il risque, comme on l'a indiqué dans le reportage, d'être jugé à Hong Kong, mais plus encore d'être extradé vers la République populaire de Chine, où on sait que le système judiciaire, le système légal est inexistant, puisqu'il est soumis à l'autorité du Parti communiste chinois, le parti unique qui gouverne la Chine, et qui tente aujourd'hui d'imposer, qui veut ou qui a déjà imposé ce système, qui remet totalement en cause la marge de liberté qui existait à Hong Kong et la spécificité de Hong Kong qui veut imposer ce système à l'ancienne colonie britannique. Donc ils prennent beaucoup plus de risques aujourd'hui qu'ils n'en prenaient hier, comme en prennent d'ailleurs tous ceux qui émettraient la moindre critique contre le système politique en général, puisque un des objectifs visés par cette nouvelle loi, c'est justement tout ce qui est contestation du système politique, que ce soit en Chine ou à Hong Kong. Donc c'est la fin, en quelque sorte, de la liberté d'expression et la mise en danger extrêmement importante de tous ceux qui s'opposeraient à cette mesure à Hong Kong.
Ce que vous nous dites, c'est que certains de ces manifestants pourraient finir à Pékin et qu'on pourrait ne plus jamais les revoir à Hong Kong ?
Et tout à fait, et ceci d'autant plus que la Chine l'avait fait avant même que cette loi existe. On se souvient qu'il y a quelques années, Pékin a fait enlever 5 libraires hongkongais, dont certains d'ailleurs avaient une autre nationalité aussi, qui publiaient des livres qui déplaisaient à Pékin, sauf qu'ils l'avaient fait d'une manière illégale. Ils sont réapparus un an plus tard après s'être excusé auprès de la Chine. Et donc la Chine n'a jamais hésité à enlever finalement les gens qui lui déplaisaient. Aujourd'hui, elle peut le faire légalement.
Mais Valérie Niquet, vous dites que maintenant, ça marque la fin de la liberté d'expression. Mais elle était importante, la liberté d'expression, auparavant ?
Alors, Hong Kong était une zone administrative spéciale. Pékin avait de plus en plus tenté de mettre la main sur Hong Kong, mais Hong Kong était encore un lieu où la presse pouvait s'exprimer librement.
Pouvait encore s'exprimer librement.
Tout à fait, oui, bien sûr. Elle avait un statut particulier. C'est ce qui faisait la force, d'ailleurs, de Hong Kong, y compris dans les affaires. On fait confiance à Hong Kong, on faisait confiance au système judiciaire et aux informations, notamment sur les entreprises chinoises publiées à Hong Kong, ce qui n'est pas du tout le cas à Shanghai. Donc, ce serait totalement illusoire de croire qu'une place financière chinoise pourrait remplacer la place financière de Hong Kong. Donc aujourd'hui, cette marge de manœuvre est fortement réduite, si ce n'est totalement annihilée, parce que ceux qui publient des critiques peuvent véritablement prendre des risques considérables.
On a vu que le Royaume-Uni avait proposé son aide. Pékin a immédiatement répliqué en disant que il risquait d'avoir des problèmes. C'est évidemment un doux euphémisme. Quel est l'enjeu en ce moment ? Est-ce que la communauté internationale va aller au bras de fer ? Est-ce qu'elle a intérêt à le faire vis-à-vis des rapports, notamment économiques, avec la Chine ? Comment est-ce que tout ça va se terminer ?
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine a considérablement besoin du monde extérieur. Elle a réussi habilement jusqu'à maintenant à persuader le monde que c'était le monde qui avait essentiellement besoin du marché chinois, un marché qui reste très fermé d'ailleurs, mais les choses changent et la Chine a besoin du monde extérieur. Donc les pressions peuvent être efficaces d'un point de vue économique, c'est notamment ce qu'ont choisi de faire les États-Unis, même si le fait qu'ils jouent un peu trop « solo » entre guillemets nuit à leur thèse. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Chine a l'habitude d'exercer des menaces, des chantages, y compris en termes économiques, avec l'ensemble de ses partenaires, la Grande-Bretagne aujourd'hui, mais aussi l'Australie, enfin n'importe quel pays qui lui déplaît, la Norvège hier, est soumis à ce type de chantage. Elle ne peut le faire que parce qu'il n'y a pas d'unité. Si l'ensemble des pays démocratiques s'unissaient pour refuser ce type de rapport de force totalement illégal, évidemment, la marge de manœuvre serait beaucoup plus forte, même si on peut imaginer qu'on ne verrait sans doute pas la levée de cette nouvelle loi, mais ça pourrait aussi encourager ceux qui, en Chine même, y compris au sein du Parti communiste, trouvent que la stratégie très agressive de Xi Jinping est nuisible aux intérêts de Pékin.
Mais qu'est-ce qui pousse Pékin à accélérer le calendrier? C'est en 2047, je parle sous votre contrôle, où il y avait le droit, entre guillemets, de reprendre Hong Kong?
C'est pas reprendre Hong Kong. Hong Kong a été repris en 1997. Simplement, en 2047, Hong Kong pouvait garder sa spécificité, sa liberté, les règles de droit qui existent comme dans n'importe quelle démocratie. C'est ça que Pékin remet en cause plus vite. Et ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui est exactement dans la ligne de ce que fait Pékin ailleurs. On a eu un conflit très dur avec militaire très dur avec l'Inde il y a quelques semaines. On a des tensions en mer de Chine. On a une attitude extrêmement agressive des ambassadeurs chinois un peu partout dans le monde.
Mais c'est quoi, c'est une expansion territoriale ou est-ce que c'est pour des points de vue économiques?
Non, ça n'est pas une extension territoriale. Hong Kong fait partie de la Chine. Ça n'est pas non plus d'un point de vue économique.
On s'est compris, Valérie Niquet.
Oui.
On s'est compris. Je comprends bien que ce n'est pas une extension territoriale stricto sensu. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ils veulent asseoir leur pouvoir. Et donc, fatalement, ma question, c'est est-ce qu'il y a de l'argent derrière tout ça?
Ce n'est pas uniquement des questions économiques, c'est une question politique. Je pense que c'est le Parti communiste qui a besoin d'affirmer sa puissance face aux défis que représentent Hong Kong et les manifestations, et qu'en laissant faire, en fait, il apparaît comme trop faible, et ça a aussi des conséquences en Chine même, puisque la Chine fait face à des tensions sociales, économiques très fortes avec le Covid-19. Et autour de Xi Jinping, on pense que la seule manière de réagir, c'est d'agir par la force, de montrer qu'en fait, le parti ne se laisse pas faire et a les moyens d'imposer sa volonté. C'est dans ce cadre-là, en fait, que la répression et cette loi a été imposée à Hong Kong. Ça n'est pas tellement pour des raisons économiques, dans la mesure où, au contraire, ça risque de nuire aux intérêts chinois d'une manière globale.
Merci beaucoup de vos explications. Valérie Niquet, spécialiste de la Chine, merci d'avoir été notre invitée dans Europe Midi. On apprend à l'instant par le syndicat Force Ouvrière qu'Airbus supprimerait 3378 postes à Toulouse. Plus de précisions tout à l'heure dans le journal de 13h, midi 25.
À suivre dans la prochaine demi-heure, l'organisation du gros procès de la rentrée, le procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et Hypercacher. Ça démarre le 2 septembre, mais l'organisation est un casse-tête. Salomé Legrand nous dira tout. 12 milliards d'euros récupérés par l'État en 2019, un résultat exceptionnel des services de lutte contre la fraude fiscale. Tesla devient le plus gros constructeur automobile en bourse et on parlera des tubes de l'été, Lambada Macarena ou Joe le Taxi. Est-ce que ça existe vraiment? Patrick Hernandez, l'interprète du tube planétaire Born to be Alive, invité exceptionnel de ce journal. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Les suites de la tempête déclenchée par l'ex-chef du parquet national financier dans l'affaire Fillon.
Éliane Houlette, souvenez-vous, avait dénoncé des pressions de sa hiérarchie. Aujourd'hui, la procureure générale en question s'est défendue vigoureusement devant la commission d'enquête parlementaire Chloé Triomphe.
Oui, après avoir rappelé aux parlementaires que les remontées d'informations sur les dossiers sensibles sont prévues par la loi, une loi sur le statut du parquet que justement aucun élu n'a jamais souhaité modifier, Catherine Champrenault a été catégorique sur son intervention supposée dans l'affaire Fillon.
D'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu dans l'affaire Fillon comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique aucune instruction de la DACG, aucune instruction du pouvoir exécutif et qu'ainsi je n'ai jamais, jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures.
La procureure générale a détaillé la chronologie des remontées d'informations et elle a expliqué que 9 d'entre elles ont été données spontanément par le parquet national financier et qu'elle-même n'en a sollicité que 4. Enfin, elle a aussi laissé entendre que les déclarations d'Éliane Houlette à son encontre étaient peut-être liées à un ressentiment personnel ainsi qu'à la pression psychologique que cette dernière avait pu ressentir en dirigeant cette affaire sensible en pleine campagne présidentielle.
Merci Chloé Triomphe, les 4 policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis qui étaient en garde à vue depuis lundi vont être présentés aujourd'hui à un juge. et sont mis en cause pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique, atteinte aux libertés individuelles et trafic de stupéfiants.
C'est le gros procès de la rentrée, décalé pour cause de coronavirus, le procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et Hypercacher.
5 ans après ces attaques qui avaient fait, souvenez-vous, 17 morts en janvier 2015, 12 personnes sont renvoyées devant les assises spécialement constituées pour le terrorisme à Paris. Mais l'organisation est un casse-tête, Salomé Legrand. Une nouvelle réunion a eu lieu en début d'après-midi avec tous les avocats.
Et oui, les impératifs de sécurité étaient déjà lourds, mais les impératifs sanitaires bouleversent toute la logistique déjà chaotique du procès. La distanciation sociale oblige, les salles d'audience voient leur capacité réduite de moitié. Du coup, quasiment tout le deuxième étage du nouveau palais de justice sera dédié au procès avec un casse-tête sur la circulation du public. Mais même en ajoutant une troisième salle de vidéotransmission, ça coince. Du côté de la défense, 22 places ont été réservées pour les 18 avocats déjà désignés. Trop peu, disent-ils. Certains sont deux pour un accusé, mais surtout, la longueur du procès, 10 semaines, nécessite de pouvoir faire venir des collaborateurs. Pas de place réservée non plus pour les familles de ces accusés, ça n'est même pas envisagé. Mais ce qui hérisse le plus les avocats des deux côtés du prétoire reste l'idée d'avoir à passer par des détecteurs de métaux. Ils ne peuvent pas commencer l'audience sans nous, on attendra de l'autre côté, menace l'un d'entre eux. Mais d'après nos informations, des aménagements sur ce point pourraient se négocier dans les jours qui viennent.
Merci Salomé Legrand, la justice encore avec peut-être une libération de Josu Ternera, ancien chef de l'organisation séparatiste basque ETA. L'homme de 70 ans avait été arrêté l'an passé. Il pourrait se retrouver avec un bracelet électronique. Beaucoup de cas de Covid à la prison de la santé. Il pourrait donc être libéré pour ces raisons.
La lutte contre la fraude fiscale n'a jamais autant rapporté au gouvernement.
Oui, 12 milliards d'euros en 2019, c'est ce qu'a annoncé hier Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, Emmanuel Dutheil. Ce n'est pas qu'il y a plus de fraudeurs, c'est que la lutte contre la fraude, eh bien, elle est plus efficace.
Oui, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La lutte contre la fraude fiscale a rapporté 50% de plus par rapport à l'année passée. Alors, ça s'explique simplement. L'arsenal législatif a été renforcé, donc la peur du gendarme qui va avec fonctionne plutôt bien. Le droit à l'erreur est entré en vigueur et ça semble marcher. On peut aussi citer le Name and Shame, la possibilité de rendre public les noms des fraudeurs, ou encore la police fiscale issue de la loi contre la fraude fiscale. Tout ça, c'est donc venu renforcer le dispositif. Et puis, comme beaucoup dans beaucoup de cas maintenant, la technologie aide. C'est ce qu'on appelle le data mining. Alors, en bon français, on va simplifier. On va appeler ça le croisement de données des différentes administrations. Mais là aussi, c'est beaucoup plus efficace. Ça a été utile dans 1 dossier sur 5 quand même pour retrouver d'éventuels fraudeurs. En tout cas, ce sont des données qui ont été communiquées par l'administration. Donc, clairement, aujourd'hui, en cas de fraude, on est plus rapidement détecté et c'est de plus en plus compliqué de passer entre les mailles du filet.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonjour Émilie Cariou.
Bonjour.
Vous êtes l'ancienne vice-présidente de la commission des finances, rapporteure de la loi fraude. Ça doit vous satisfaire ce genre d'annonce?
Alors effectivement, les chiffres qui ont été annoncés hier constituent une très bonne nouvelle. Alors d'autant plus que les chiffres du contrôle fiscal, ils avaient baissé ces dernières années. Là, on voit qu'on a une nette progression, notamment parce que tous les nouveaux outils qu'on a adoptés depuis le début du quinquennat entrent en vigueur. Des outils qui vont vers la pénalisation, qui donnent des outils au parquet national financier, notamment d'agir plus vite et de manière plus efficace. Et puis des outils technologique qu'a utilisé l'administration fiscale. Et on voit que tous ces nouveaux outils sont en train de monter en puissance et de porter leurs fruits.
Alors le data mining, c'est ce dont nous parlait Emmanuel Dutheil. Comment ça marche?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait qu'on a autorisé dans la loi fraude des recoupements de fichiers entre les URSSAF, les services sociaux, l'administration fiscale, des recoupements qui montrent les incohérences de déclaration par exemple. Et puis on a un service aussi qui est là pour récupérer notamment toutes les transmissions de comptes bancaires. Vous savez qu'on a la France et tous les pays européens se sont dotés de nouveaux outils pour transmettre les états des comptes bancaires des personnes partout en Europe et voire même dans le monde. Et donc on a une cellule qui est spécialisée dans le traitement des millions de données qui parviennent aux services fiscaux tous les ans.
Ça veut dire qu'ils sont tous les jours sur des écrans d'ordinateur à traquer, à croiser des fichiers? C'est comme ça que ça se passe?
Alors oui, mais ça
Pardon,
sert à
j'essaie
programmer...
J'essaie de comprendre, ma question est un peu candide.
En fait, c'est des techniques qui vous permettent de recouper des informations et en fait, quand vous avez une information qui provient par exemple de l'étranger qui n'a pas été déclarée dans une déclaration fiscale d'un contribuable, à ce moment-là, le dossier va ressortir en anomalie. Et ce service, après, va transmettre cette information à un service de contrôle fiscal. Donc c'est la manière aussi dont on programme le contrôle fiscal qui s'améliore avec ces outils de data mining.
Comment on peut aller plus loin dans ces outils ? Quelle est la marge de progression au niveau technique ?
Alors, on a un certain nombre de choses à améliorer. Vous savez que l'année dernière, le président de la République, il avait confié à la Cour des comptes le rôle d'expertiser un peu l'état des lieux en matière de fraude. Et la Cour des comptes, elle avait dit, on a encore beaucoup de travail à faire du côté notamment de la fraude à la TVA. Et que,
Pourquoi sur la TVA ?
Parce que la TVA, vous savez, c'est une taxe qui est organisée au niveau européen et qu'on a certains mécanismes très complexes pour faire évader des sommes dans d'autres pays européens. D'accord. Et donc, il y a des choses à simplifier du côté des directives communautaires. Et ça, c'est des choses qui sont en discussion encore aujourd'hui. Et puis, il y a encore des moyens, mais des moyens numériques, mais pas uniquement. Parce qu'il faut quand même faire attention. Vous savez, la lutte contre la fraude fiscale, à un moment donné, il y a des pièces juridiques extrêmement complexes à produire et donc il faut aussi des effectifs. Or, nous, du côté du Parlement, on est toujours en alerte sur le fait de baisser des effectifs à la DGFiP, donc l'administration fiscale, et notamment dans les services de contrôle fiscal, puisque cette expertise-là, personne ne peut la faire à part un inspecteur des impôts, si vous voulez.
C'est toujours... Donc, oui, pardon, vous vouliez terminer.
Ce qu'on a réussi quand même à mieux organiser, notamment à l'issue de la loi fraude et vous savez, à l'issue de la levée du verrou de Bercy, c'est le fait que l'administration fiscale et le parquet, et donc le côté pénal, et la justice, travaillent beaucoup mieux ensemble et beaucoup plus en amont sur les dossiers. Et ça aussi, ça commence à porter ses fruits.
Il y a une autre information, elle avait été passée, disons que certains avaient ri un peu de cette information, c'est le fait que, par exemple, s'afficher sur les réseaux sociaux avec une voiture de sport ou dans un lieu un peu féerique, ça pouvait conduire l'administration fiscale à s'intéresser à vous. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est aussi un des outils, j'allais dire, du 21e siècle pour avancer dans la lutte contre les fraudeurs ?
Alors, ce qu'on a mis en termes de data mining sur les réseaux sociaux l'année dernière dans la loi, c'était pas vraiment ce type de choses. Je vais vous dire, l'administration fiscale, elle a toujours regardé le train de vie des gens et autrefois, elle regardait le train de vie des stars dans les magazines, etc. Mais ce qu'on a mis comme nouveaux outils, c'est plutôt des outils qui démontrent la domiciliation de quelqu'un en France, par exemple. C'est, ou alors la vente illicite de produits illicites. Par exemple, vous n'avez pas le droit de vendre du tabac par Internet. Voyez, donc il y a beaucoup de fantasmes autour de ces outils de data mining, mais en fait, on a quand même restreint le champ. Aujourd'hui, dans les chiffres qui nous sont évoqués par le gouvernement, on n'a pas encore le détail du résultat de tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 ans, on avait fait adopter dans une loi de finances le fait que tous les ans, le gouvernement nous rende un rapport très détaillé sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc, ce qui va nous permettre d'analyser, finalement, dans les 12 milliards qui nous sont annoncés, qu'est-ce qui provient du data mining, qu'est-ce qui provient de la levée du verrou de Bercy, qu'est-ce qui provient d'autres mécanismes de contrôle fiscal, puisque le contrôle fiscal, vous savez que c'est quand même 40 000 ou 50 000 dossiers par an qui sont réalisés par les services fiscaux. Et donc, on aura ce détail-là et on saura si ces nouveaux outils ont réellement produit les effets financiers.
Émilie Cariou, on estime à combien le nombre d'inspecteurs qui travaillent là-dessus pour traquer les fraudeurs ?
Alors là, si vous voulez, ça dépend de... L'administration fiscale dans son ensemble, c'est 70 000 agents, mais les personnes qui travaillent uniquement sur le contrôle fiscal, c'est beaucoup moins que ça. Si on doit être, je ne sais pas, sur 10 000 agents, c'est difficile à vous dire.
2 000 ou 10 000, on n'a pas bien entendu.
Plutôt 10 000 agents, mais si vous voulez, il y a ceux qui font du contrôle fiscal, qui sont encore moins nombreux que ça, et ceux qui font ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, c'est-à-dire ceux qui travaillent de leur bureau. Et quand vous parlez du data mining, alors là, c'est une toute petite cellule. On a une trentaine d'agents qui font ça sur les outils numériques purs et qui, eux, vont alimenter les autres et toutes les directions régionales et départementales.
Et ce sont eux les spécialistes. Merci beaucoup, Émilie Cariou. Merci d'avoir été notre invitée dans Europe Midi, midi 39.
Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, à peine entrée en vigueur, la réforme du lycée vient d'être ajustée et Tesla qui devient le constructeur automobile le plus cher en bourse. À tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Si vous avez des lycéens à la maison, ils ont dû transpirer à l'évocation même de ce sigle E3C, épreuve commune continue. C'était la nouvelle formule du bac. Eh bien, apparemment, ça va rechanger.
Oui, c'est reparti pour un tour et c'est reparti. Ça va être maintenant un examen réparti et non pas reparti sur les classes de première et terminale qui va donc être modifié dès la rentrée prochaine, Virginie Salmen.
D'abord, elle change de nom. Terminer ce terme barbare 2-3C,
Désormais, elles s'appelleront sobrement épreuves communes, histoire de faire retomber la pression de l'examen pour les lycéens. Il y avait deux sessions d'épreuves pour les élèves de première, l'une en janvier, l'autre en mai. Mais les professeurs estimaient que faire passer des épreuves dès le mois de janvier, c'était plus du bachotage qu'autre chose et qu'ils avaient moins le temps de faire de vrais cours où on apprend. À partir de l'an prochain, il n'y aura plus de date imposée. Le calendrier sera fixé dans chaque lycée. Mais est-ce que cette souplesse suffira à calmer les profs qui ont participé au blocage de lycée l'an dernier? Pas sûr à entendre Lisiane Gervais, représentante des proviseurs du SNPDEN.
Je ne sais pas si les enseignants sont vraiment contents puisque eux aussi demandaient la suppression des premières évaluations de première, pour qu'il y ait un vrai apprentissage et à la fin de l'année, on pouvait évaluer.
Les proviseurs, eux aussi, sont pour une suppression pure et simple de ces épreuves en cours d'année. Ils préféreraient garder un seul examen final pour le bac.
Virginie Salmen, du mieux pour les couches bébés. La DGCCRF constate que les taux de substances chimiques ont nettement baissé depuis la mise en garde de janvier 2019. La répression des fraudes attend tout de même des améliorations pour trois références de couches, les Pampers Premium Protection, les Marmaille Plus et les Moana Zaza. Je ne les connaissais pas, celles-là.
Allez, on va parler voiture maintenant avec Tesla. Le constructeur américain bat tous les records. Il est le plus cher à la bourse de Wall Street.
La première capitalisation boursière dans le secteur auto. Il détrône Toyota, assimilé aux stars du numérique comme Apple ou comme Amazon. Et le chiffre est colossal. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Pierre, bonjour
merci.
Elisabeth.
Bonjour, merci de nous rejoindre. Le chiffre, il est de plus de 207 milliards de dollars.
Oui, c'est fou parce que Tesla, c'est un tout petit constructeur. Tesla produit à peine 400 000 voitures par an et donc il vaut, vous l'avez dit, plus de 200 milliards en bourse. Si vous comparez Renault produit 4 millions de voitures par an, 10 fois plus que Tesla, vous voyez. Et Renault en bourse, ça vaut 7 milliards, 30 fois moins que Tesla. Donc on est complètement dans l'irrationnel avec Tesla. Mais et c'est d'ailleurs Tesla, c'est quelque chose d'irrationnel vis-à-vis de Wall Street et même vis-à-vis de ses clients. Tesla n'a pas de clients, il a des fans. Et du coup, il faut dire qu'il a eu l'intelligence, Tesla, d'attaquer le marché de la voiture électrique par le haut de gamme. Vous le compariez à Apple tout à l'heure. Les gens sont très fiers d'avoir une Tesla.
Oui, contrairement à Renault. Smartphone avec 4 roues.
Voilà, contrairement à Renault qui a attaqué le marché de la voiture électrique par la voiturette de centre-ville, ils l'ont attaqué par le haut de gamme, ce qui fait que Tesla est valorisé comme une entreprise de luxe, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, sauf que le luxe génère d'énormes marges. Mais là où il y a l'arnaque, c'est que Tesla est une boîte déficitaire. Ils ont perdu l'an dernier plus de 775 millions de dollars, vous voyez.
Et Elon Musk et Tesla, ils reviennent quand même de très très loin, hein.
Ah bah oui, alors à chaque fois on prédit l'éclatement de Tesla, faut dire qu'il fait tout pour qu'on ne le prenne pas au sérieux.
Il Elon fait tout Musk, pour qu'on le déteste, c'est surtout ça.
Oui, je vous rappelle qu'il a fumé de la marijuana dans un studio de radio, ça a été filmé. Il a lui-même reconnu dans une interview au Wall Street Journal qu'il était régulièrement en burn-out et qu'il était obligé de prendre des cachets la nuit pour dormir. Il explique qu'il veut coloniser Mars. Et puis alors là-dessus, en plus, il y avait régulièrement chez Tesla, il y avait de la difficulté à produire. Si vous voulez, les gens achetaient les Tesla, mais Tesla n'arrivait pas à fabriquer les voitures. Et là, ce qui a rassuré, c'est que fin 2019, ils arrivent enfin, vous voyez, 400 000 voitures, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Et c'est ça c'est la crédibilité industrielle qu'enfin on porte au crédit de Tesla. Et du coup, vous le compariez à Apple, à Amazon, mais c'est exactement ça. En fait, les boursiers à Wall Street, ils ont raté Amazon, ils ont raté Google, et ils ont raté, ou ils l'ont réussi, mais ils disent, au fond, est-ce que c'est pas la même aventure avec Tesla qu'avec il faut voir qu'Apple, par exemple.
Une aventure un peu incertaine, c'est ça, hein. Quand on voyait les analystes comme Fitch, etc., ils ne faisaient pas un copec sur Tesla. Maintenant, ils ont radicalement changé d'avis.
Voilà, ils disent, regardez, dans le téléphone portable, aujourd'hui, le numéro 1 en bourse, c'est iPhone, c'est Apple, qui ne fabriquait pas de téléphone portable il y a 20 ans, et qui a totalement ringardisé les BlackBerry, Nokia, Ericsson. Regardez, dans la grande distribution, le numéro 1 en bourse, c'est Amazon, qui était un vulgaire site internet et qui a réussi à déboulonner les géants comme Carrefour et Walmart. Eh bien, ils se disent, est-ce qu'il n'y aurait pas la même aventure avec Tesla? Parce qu'on est face à un changement radical de technologie. La voiture de demain, imaginez, dans 10 ans, elle sera électrique et elle sera autonome, ça veut dire ultra connecté. Et les gens se disent, après tout, qui est le plus à même de réussir ce virage de l'ultra connexion? Est-ce que c'est Peugeot, Citroën, ou est-ce que c'est Tesla? Et ben voilà, Wall Street semble avoir fait le pari que Tesla sera le futur Apple de l'automobile.
Plus que jamais, le monde bouge et c'est vous qui l'incarnez, ce monde qui bouge, tous les matins sur l'antenne d'Europe 1 à 7h20. Merci Axel de Tarlé.
Allez, une bonne fois pour toutes, hein, l'OM n'est pas à vendre.
Déclaration des dirigeants du club de foot marseillais qui font face depuis une semaine maintenant à un plan de rachat autour de Mourad Boudjelal et d'un homme d'affaires franco-tunisien. Ce matin, Christophe Boucher était l'invité d'Europe 1. L'ancien président de l'OM a eu des mots assez durs pour les potentiels repreneurs et leur méthode jugée cavalière. Jean-François Pérez.
La méthode n'est pas bonne. Au minimum, c'est pas courtois et c'est un peu grossier.
Comme pas mal d'observateurs, Christophe Boucher n'est pas convaincu par le plan com des candidats à la reprise de l'OM. De l'annonce publique, mais sans précision financière, la semaine passée, via Mourad Boudjelal, à la réunion avec les supporters, histoire peut-être de les rallier à leur cause, l'ancien patron du club ne valide pas, mais il est bien conscient des problèmes financiers de l'OM, dont les pertes avoisineraient les 100 millions d'euros. Et il ne ferme pas la porte, du coup, à une prochaine vente du club, malgré les démentis de l'actuel propriétaire.
Ses possibilités de rentrer dans son argent vont être très difficiles. Donc si une belle offre passe, ce serait étonnant qu'il la laisse passer.
Parmi les autres points étonnants de ce plan de reprise, l'interview très géopolitique de Mohamed Ajroudi, le pilier franco-tunisien du projet, qui parle d'une croisade pour la paix de l'OM dans le bassin méditerranéen. Tout sauf une bonne idée, selon Christophe Boucher.
Il ne faut pas politiser le football, c'est dangereux. On voit bien déjà les différents États du Moyen-Orient qui se livrent bataille à distance via les clubs anglais, par exemple. Ça finira mal.
Dans cet épais brouillard, les annonces concrètes et chiffrées des investisseurs se font toujours attendre, ce qui fait dire aux actuels dirigeants de l'OM que ce projet n'est tout simplement pas sérieux.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Allez, on va terminer en musique, parce que nous sommes déjà en été, et qui dit été dit... Tube, de l'été.
Mais oui, mais avec les plateformes Spotify, Deezer, c'est plus pareil. Il n'y a pas, comme à l'époque, un tube par an que tout le monde chante, tout est mélangé. Qu'est-ce qu'on retiendra de l'été 2020, Angèle Châtelier ?
Eh bien déjà, l'un des derniers grands tubes de l'été, c'est Despacito en 2017. Le clip de cette chanson est le premier à avoir atteint 3 milliards de vues sur YouTube. L'année suivante, la chanson qu'on entendait partout pendant l'été, c'était Dja Dja d'Aya Nakamura. Alors les tubes de l'été ont quelques points communs et ingrédients à mettre dans la recette. Des ingrédients que nous rappelle Jean-Marie Potier, co-auteur du livre « Sans un tube de l'été ».
Ça va des rythmes dansants parce que évidemment l'été on aime danser, on aime faire la fête. Il y a aussi des paroles légères qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirt, de vacances aussi.
Mais alors les usages ont changé. Pendant très longtemps, les tubes étaient martelés sur toutes les radios. Et maintenant, la musique se consomme essentiellement sur les plateformes de streaming où un clic suffit à changer de chanson. C'est pour ça que l'année dernière, plusieurs se sont démarqués. Balance ton quoi d'Angèle, par exemple. Ou Aya Nakamura toujours, mais avec sa chanson Pookie. Probable donc que des tubes de l'été 2020, on en compte au moins deux. Habibi de Kenji Girac, selon Jean-Marie Potier. Ou encore Stupid Love de Lady Gaga. Son sixième album Chromatica, sorti fin mai, techno et dansant, s'est déjà vendu à 300 000 exemplaires.
Le grand retour de Lady Gaga. Mais, moi avec mon âge canonique, je peux vous en sortir des chansons. Le tube de l'été 79, c'était quoi ? C'était ça. Et l'interprète est avec nous. C'est un invité exceptionnel. Bonjour Patrick Hernandez.
Hello, c'est H Canonix à l'appareil.
Bonjour Patrick Hernandez.
Ça fait plaisir de vous avoir sur Europe 1. Dites-nous, alors là, on voit quand même des jeunes qui, pratiquement sur mesure, avec leur smartphone ou avec un petit logiciel sur ordinateur, fabriquent leur tube de l'été. Chacun a le sien. C'était complètement différent, l'aventure de Born to be Alive. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais elle n'avait pas très bien commencé, il me semble.
Non, elle n'avait pas très bien commencé. Et la façon dont on travaille maintenant est peut-être la raison pour laquelle les tubes durent moins longtemps que le mien, finalement. Parce que, finalement, il fallait vraiment, vraiment se concentrer pour faire la meilleure des choses à l'époque. Et on n'avait pas les moyens, bien évidemment, que nous avons aujourd'hui. Donc déjà, à l'origine, il fallait trouver une équipe de choc. Et moi, je l'ai eu. J'ai eu la chance, insigne, d'avoir un producteur visionnaire qui s'appelait Jean Van Loo. Un Belge fabricant de tubes depuis des années, et un promoteur complètement
fada. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà comme chanson?
Oh, il avait fait plein de tubes qu'on appelait les Belgeries à l'époque. Crazy Horse, les Sunlight, les Chocolates, Brasilia Carnaval. Enfin, c'était vraiment un garçon qui a, jusqu'à Born to Be Alive, aligné des dizaines et des dizaines de succès. Donc, ce garçon avait vraiment le nez. Quand je dis qu'il était visionnaire, il fallait quand même le faire, parce que Born to Be Alive, à la base, était une chanson lente, c'était une chanson acoustique. Donc, il a eu vraiment la vision de la chanson dans sa finition, quoi. Et honnêtement, il n'y avait que lui pour voir ça. Et j'ai eu un promoteur qui était suffisamment fada pour prévoir de m'envoyer aux États-Unis. Donc ça, il fallait vraiment le faire aussi, parce que ce n'était pas non plus évident à l'époque.
Patrick Hernandez, Born to be Alive, c'est quoi le secret de cette chanson? C'est quoi le secret de ce tube? C'est quoi un tube de l'été qui marche comme ça après tant d'années?
Écoutez, je crois que pour tous les grands tubes ou toutes les grandes chansons qui marquent comme ça leur période, il y a une notion de simplicité qui doit être évidente. C'est une certaine évidence dans la simplicité, en fait.
C'est une chanson sur trois accords, en fait, hein, comme on dit.
Oui, il y en a un de plus dans Born to Be Alive. Il y a une petite finesse, mais bon, c'est une base de blues comme beaucoup. Regardez le répertoire des Beatles, il y a énormément de chansons qui sont...
Il faut les retenir et il faut qu'elles soient faciles à chanter, sinon ça ne devient pas un tube.
Il faut les retenir, donc c'est pour ça que j'ai une certaine simplicité dans l'évident. Il faut que ce soit évident. Et à l'époque, on ne s'est laissé absolument aucune porte de sortie. Ça, c'est important aussi, c'est un peu la manière dont on travaillait à l'époque. C'est-à-dire qu'on a tout vérifié avant de sortir le disque, y compris avec les Anglais, avec les Américains, pour savoir s'il n'y avait pas de piège. Et donc, il faut vraiment se mettre tous les atouts de son côté. Et puis, il faut avoir un facteur chance absolument indéniable aussi, une bonne conjonction de planètes, enfin tout ce que vous voulez.
Et il faut que les radios matraquent littéralement ce tube pendant des semaines et des mois.
Oui, alors...
Ce qui a été votre cas.
En l'occurrence, pendant 6 mois, on en a vraiment subi toutes les tomates possibles et imaginables. Personne n'en voulait, y compris les radios d'ailleurs. Mais après, effectivement, les radios, et notamment Europe, s'est mis vraiment en route parce que nous avons bénéficié d'un numéro 1 très facile en Italie et en Belgique. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que les Français ont tendu l'oreille et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus simple.
Aujourd'hui, c'est quoi votre tube de l'été préféré, Patrick Hernandez, à part Born to be Alive?
Oh, il y en a un que j'aime bien, c'est la Macarena, je trouve ça plutôt rigolo.
C'est dansant.
Ouais. Ça me rappelle un petit peu. En plus, ça me rappelle mes origines. Moi, pour ce qui concerne Born to be Alive, il n'y a que le nom du chanteur qui est hispanique. Mais finalement, la Macarena sont un peu mes origines aussi. Et donc, oui, et en plus, c'est chanté aussi par des gens que j'aime bien. Donc voilà, et puis la lambada aussi.
Tout ce qui danse, vous aimez bien, Patrick Hernandez. Merci beaucoup d'avoir été sur Europe 1.
Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir appelé.
Born
Merci.
To be Alive, Patrick Hernandez, 1979. On vous retrouve dans la tournée Zénith Star 80 qui débutera le 12 novembre 2020 à Amiens, puis Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon et d'autres villes derrière.
Merci Pierre, je vous laisse danser.
Yes, hein, à demain.
À demain midi. Et on retrouve Anissa Haddadi.
On va danser météo. Sous la pluie.
C'est ça, on va danser sous la pluie avec des nuages et de la fraîcheur.
Oui, effectivement, Elisabeth, après les violents orages d'hier sur la région Rhône-Alpes, le temps est très gris, nuageux et humide sur presque tout le pays aujourd'hui. En fait, il n'y a que sur le pourtour méditerranéen et la Corse qui auront droit au soleil cet après-midi. Alors en fait, c'est un ciel de traîne qui se met en place après cette dégradation d'hier sur la moitié nord du pays. Ce régime de traîne se met en place avec de nombreux nuages sur la basse vallée du Rhône. Nous aurons encore cet après-midi des orages, notamment sur le Languedoc et les Cévennes. Et puis le front froid présent sur le nord du pays va nettement faire baisser les températures. Écoutez bien, cet après-midi, nous aurons aurons seulement 17 degrés à Cherbourg et à Brest, 19 à Rouen, Rennes et Limoges, 21 à Paris et Bordeaux. C'est plus de 10 degrés en moins par rapport à il y a quelques jours.
On le ressent, hein. nous sommes à Paris, on le ressent aussi. Ouais.
Bah 21 cet après-midi à Paris, 23 à Strasbourg, 25 à Lyon. En revanche, au bord de la Méditerranée, il fait plus chaud, voire même lourd, 29 à Montélimar, 30 à Montpellier sous les orages et 30 degrés pour Marseille.
Ouais, donc là encore, on est encore un peu dans une France coupée en deux.
C'est ça, et un peu de patience parce que le soleil y revient, mais ce week-end.
Ah, génial. Merci Anissa. Europe 1. Restez avec nous, les vacances d'été arrivent à grands pas et les personnes âgées vont parfois se retrouver seules ou en EHPAD ou chez elles. Alors, pour continuer à veiller sur ces personnes, même quand il n'y a personne, il existe des solutions. Elles sont françaises, on va les découvrir. Ce sera après un pitch et une solution. C'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.